Ici, Moscou. La pensée à travers les faits. Avec Françoise Compoint.
On en a soupé des fémen et compagnie, on a soupé des mariages pour tous, qui ne sont pas spécialement pour tous, car fort heureusement, je ne peux quand même pas épouser mon frère ou mon père. On en a soupé des genres de théories relatives au genre et de la chasse aux catholiques dit obscurantiste. En réalité, ce sont moins les expressions civilisationnelles, dirais-je, de ces expériences qui semblent intéressantes aujourd'hui, que le principe de base qui se dissimule derrière et qui, s'il atteint son paroxysme, pourrait conduire au pire anti-utopie décrite jusque-là. Le socialisme est souvent associé à l'humanisme, c'est un petit peu pareil. Ce raccourci caricatural n'a en fait jamais été valable puisque la plus belle, en même temps la plus terrible des utopies élevées au plus haut rang de religion fut quand même le communisme, dirait-on, du socialisme soviétique, qu'il présentait des traits humanistes, pas vraiment, pour ne pas dire pas du tout. Le socialisme français, celui que nous connûmes sous Mitterrand, pouvait paraître axé sur une philosophie humaniste. La loi Badinter sur la suppression de la peine de mort en est une illustration. L'allègement de la politique migratoire et l'exacerbation irrationnelle de discours antiracistes en est également une illustration, je dirais, tout à fait éloquente. Ceci étant, comme tout excès de zèle entraîne un résultat finalement inverse à l'effet recherché, le retour du socialisme en 2012 réduit à l'absurde les vecteurs socialistes empruntés dans les années 80-90. Les raisons en sont très simples. L'incorrigible audace des socialistes s'appuie sur, d'une part, une conception idéaliste de la nature humaine, d'autre part, sur une conception tout à fait totalitaire de cette même nature, dans la mesure où on la croit modelable à volonté. Cette contradiction a conduit le gouvernement Hollande à miser sur la création de l'homme nouveau, un homme lui-même tissé, je dirais, de contradictions, qui serait, par exemple, français sans être français, qui serait droit de l'homiste, mais à la carte, et surtout au détriment de ses intérêts primaires, ethniques, démocrate, mais démocrate à l'américaine, dans un monde où il y a des gentils à glorifier et des méchants à bombarder, comme ça, arbitrairement, un monde où l'on est relativement homme ou relativement femme, etc., etc. Bref, il s'agirait plutôt d'un homme nouveau pris dans un univers tiré des manuels de schizoanalyse, un petit peu style Deleuze. Résultat d'un humanisme irrationnel, on est presque déjà passé au transhumanisme, la seule idéologie qui propose un nouvel homme, non pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Une culture trans peuplée d'êtres trans, naturellement la religion, et c'est naturellement le christianisme avec ses principes édificateurs immuables qui est attaqué en premier lieu. Et bien naturellement, la religion, il n'y a pas du tout sa place. Or, comme nous ne sommes pas des bouts de bois dont on peut faire des Pinocchio ou des petits garçons en chair et en os, le transhumanisme socialiste finit par tuer les nations, tôt ou tard. Quant aux croque-morts, ils font aussi partie de nos sociétés, tout en conservant leurs principes, donc en restant un petit peu à l'écart. Ce schéma, certes très peu réjouissant, tracé, je soumets à votre attention l'analyse de M. Guillaume de Thieuoy, qui est écrivain, directeur de publication, entre autres, de Nouvelles de France et de l'Observatoire de la christianophobie.
Est-ce que déjà, pour commencer, vous pourriez vous présenter ? On va commencer par le commencement.
Écoutez, je travaille dans le domaine politique, je suis assistant parlementaire, je suis un peu écrivain et un peu journaliste par ailleurs, je suis notamment éditeur de presse et notamment éditeur de pas mal de directeur de publication de pas mal de sites de ce qu'on appelle la catosphère ou la réacosphère selon les vocables. Donc je suis notamment le directeur du Salon Beige, de Riposte Catholique, de l'Observatoire de la Christianophobie et de Nouvelles de France.
Ah d'accord, donc en tant qu'observateur, enfin travailler pour l'Observatoire de la Christianophobie, je connais très bien ce site que j'apprécie beaucoup. Alors est-ce qu'on peut dire que sous le mandat de Hollande, quand même les actes christianophobes sont en augmentation, notamment si on compare leur nombre, leur importance, avec ceux qui avaient été relevés les 18 premiers mois du mandat de Sarkozy? Et si c'est réellement le cas, est-ce que selon vous ce serait lié à la politique qui est quand même notablement antichrétienne du PS ou à d'autres facteurs qui n'ont rien à voir avec le pouvoir en place?
Alors, d'abord, il est assez difficile de répondre à votre question sur les chiffres, parce que il n'y a pas du tout de recension exhaustive des actes de haine antichrétienne en France, ni même en Europe. On commence tout juste à mettre une espèce de compilation au point, c'est notamment l'OSCE qui s'en occupe au niveau européen. Et en France, en dehors de l'Observatoire de la christianophobie, donc qui n'est pas évidemment un organisme officiel, personne ne s'en occupe. Le ministère de l'Intérieur, par exemple, refuse de communiquer sur les actes de haine antichrétienne. Et donc, on n'a pas du tout de chiffres officiels. Donc, il est très difficile de comparer la situation du mandat de Sarkozy et celle du mandat de Hollande. Cela étant, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une indifférence des pouvoirs publics sous l'actuel mandat, qui est beaucoup plus forte encore que le... On peut pas dire que le précédent mandat était extrêmement attentif à la haine antichrétienne, mais actuellement, non seulement ils y sont pas du tout attentifs, mais ils en rajoutent. C'est-à-dire que systématiquement, par exemple, pour ne donner qu'un petit exemple symbolique, mais systématiquement, toutes les fêtes religieuses sont l'occasion de communiquer soit de Matignon, soit de l'Élysée, sauf les fêtes chrétiennes, par exemple. On a eu le droit à aucun mot ni pour le début du carême, ni pour Pâques, ni pour Noël. Enfin, à aucun moment d'aucune fête chrétienne ou d'aucun temps chrétien, alors que la France est quand même encore majoritairement chrétienne, nous n'avons droit à une petite attention des pouvoirs publics. Donc il est très clair que le gouvernement actuel est très hostile au christianisme et aux racines chrétiennes de la France. Donc, ce qui évidemment ne facilite pas notre travail de résistance à la haine antichrétienne. Cela étant, le laïcisme socialiste n'est qu'une des composantes de la haine antichrétienne en France. Pour faire simple, nous, de façon générale dans le monde et en particulier en France, on recense à peu près 3 sources de christianophobie. La première, c'est le communisme, la deuxième, c'est l'islam radical, et la troisième, c'est le laïcisme. Donc, en France, il y a un peu trop d'ailleurs de communisme, et donc par exemple, un certain nombre de dirigeants d'extrême gauche continuent à considérer que le cléricalisme voile à l'ennemi. Les laïcistes sont évidemment dans la même disposition d'esprit et l'islam radical est assez puissant aussi. Donc un certain nombre de profanations d'églises viennent soit de l'islam, soit du laïcisme communiste ou socialiste.
D'accord, donc oui, excusez-moi.
Et puis juste un dernier sujet. En France, il y a par ailleurs également beaucoup de satanisme et notamment de viols de sépultures pour des raisons manifestement sataniques.
Oui, malheureusement. Mais finalement, monsieur, donc vous pensez que, d'une certaine façon, la version qu'éprouve le PS à l'égard de l'héritage chrétien de la France serait également peut-être une façon de flirter avec un islam qui se radicalise ? Ou alors vous pensez qu'il n'y a pas de flirt là-dessus, j'ai l'impression ?
Alors, il y a clairement... je ne suis pas certain que ce soit exactement dans cette logique-là que ça se fasse, mais c'est un peu, si vous voulez, la même genre de logique que celle de Jacques Chirac naguère. Jacques Chirac avait refusé qu'on mette les racines chrétiennes de l'Europe dans la constitution de l'Union européenne parce qu'il voulait pouvoir accueillir la Turquie, qui évidemment est pas très sensible aux racines chrétiennes. Mais donc il est clair que gommer l'héritage chrétien est une façon pour eux d'intégrer les musulmans, mais c'est un calcul complètement absurde parce que moi je constate, j'ai été assez actif dans la lutte contre la loi Taubira, je le suis encore d'ailleurs, on constate tous les jours que les musulmans sont beaucoup plus respectueux des Français qui assument clairement leur héritage que des socialistes complètement déracinés que nous avons actuellement au gouvernement.
C'est vrai. C'est vrai.
Alors donc effectivement, il y a clairement une espèce de drague parce que donc clairement là, une partie de leur électorat est issue de l'immigration et donc il y a une partie de la version des socialistes vient de là, mais je pense en fait que c'est fondamentalement idéologique. Comme ils veulent créer un homme nouveau, ils veulent créer un homme sans racines. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ils ont besoin d'immigration, parce qu'évidemment l'immigration déracine. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas supporter qu'on leur rappelle que la France a été façonnée par le christianisme.
Un clin d'œil aux Lumières, autrement dit. D'accord, je vois.
Exactement.
D'accord. Et puis, monsieur, ma dernière question quand même, un petit peu plus générale, qui touche à l'international. Le mépris du christianisme, qui est quand même, on va d'en parler amplement, qui est affiché par nos élites dirigeantes, les conduit à ignorer les souffrances indicibles qui sont endurées par les chrétiens du Moyen-Orient. Et le fait que de jeunes islamistes européens, et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu les statistiques, la France est en tête dans ce classement, et bien le fait qu'ils partent en Syrie pour y faire le djihad ne les préoccupe que très moyennement. Enfin, ils en parlent, mais bon, c'est plutôt des discours de façade. Pourtant, ces individus-là vont tôt ou tard rentrer dans leur pays d'origine. Je prends origine entre guillemets parce que c'est plus une origine formelle. Est-ce que vous croyez que la France soit véritablement à ce moment-là en danger, ou alors ce phénomène reste quand même très marginal ?
Alors, le phénomène est évidemment marginal dans la mesure où c'est quelques centaines de personnes qui sont concernées. Moyennant quoi, enfin, moi j'ai toujours en tête que c'est les minorités agissantes qui font l'histoire. Et donc les apôtres n'étaient que 12, hein. Évidemment ils n'étaient pas une majorité écrasante du peuple juif, mais il n'empêche que à 12 ils ont quand même révolutionné singulièrement l'histoire du monde. Et donc le fait qu'il n'y ait que entre guillemets 500 ou 1000 djihadistes, 10 français en Syrie, ne me rassure pas du tout. Donc pour moi effectivement la France est en danger, mais elle est en danger pas tellement parce qu'il y a des gens qui font le djihad en Syrie, elle est en danger parce qu'elle refuse absolument de se préoccuper d'intégrer les gens qu'elle accueille sur son sol. Et dès l'instant que vous parlez d'intégration, vous êtes supposé d'être raciste, d'être ethnocentriste ou je ne sais quel fléau particulièrement grave pour le politiquement correct. Donc il est très clair qu'en déracinant comme ça des millions de personnes, on les pousse à se retrouver des origines plus ou moins fantasmées et donc notamment se radicaliser. Donc moi je pense que le clan immigrationniste donc qui est actuellement au pouvoir, le clan immigrationniste porte une écrasante responsabilité. Alors ça a pas de rapport avec la christianophobie, mais porte une écrasante responsabilité dans la radicalisation d'une partie de la jeunesse musulmane. Pour moi, il est évident que si on était strict, ferme sur le fait que quand on habite en France, on se comporte comme les Français, il est évident qu'on verrait très vite une écrasante majorité des populations d'origine immigrée s'intégrer parce que c'est évidemment leur intérêt aussi à elles. Et puis ceux qui ne veulent pas s'intégrer, ben qu'ils aillent ailleurs. On n'est pas obligé d'accueillir toutes les personnes qui nous détestent.
Bien sûr, à Rome, faites comme les Romains, oui, d'accord.
Exactement. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi on voit régulièrement des manifestes qui disent ou des. Je pensais à ça il y a pas très longtemps. Il y a eu un fait divers absolument sordide à Ivry où une malheureuse a été violée parce qu'elle était française. Mmh. Et donc les agresseurs ont expliqué à la police que naturellement si elle avait été d'origine turque, ils l'auraient jamais traitée comme ça. Mais je suis désolé, mais on n'a pas du tout d'obligation d'accepter des gens qui ne supportent pas la France, qui ne supportent pas les Français, qu'ils aillent voir ailleurs. Enfin, c'est pas nous qui les avons forcés à venir, quand même, que je sache.
Et je rappelle que c'était Monsieur Guillaume de Tuyoua, écrivain, directeur de publication des Nouvelles de France et de l'Observatoire de la christianophobie, et moi-même, Françoise Compoint, sur les ondes de la Voix de la Russie. Très bonne soirée à vous tous, au revoir.